Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et on vous retrouve la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi, j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Amis du Parti d'Anjouer, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver et de nous retrouver comme chaque dimanche soir autour de l'univers d'un jeune musicien, autour ou alors plutôt à l'intérieur de sa galaxie émotionnelle, de sa constellation personnelle. Et l'idée même de ce ciel étoilé n'est d'ailleurs pas étrangère aux passions qui animent notre invité de ce soir, car en dehors des télescopes qui lui permettent de lire dans le ciel une partition céleste, notre invité a fait le choix de la baguette en se disant peut-être que l'orchestre était le meilleur médium pour se faire entendre là-haut dans l'espace. Elle a l'habitude des têtes à tête, mais dans un rapport souvent déséquilibré. Seule contre tous, elle me dira « Mais non, pas du tout, surtout pas, seule avec tous !» Ce qui revient à ne jamais être seule. Et diriger l'orchestre est d'ailleurs un bon moyen pour elle de ne jamais faire de la musique seule et seulement. Nous passons ce soir une heure en tête-à-tête avec la chef d'orchestre Ariane Matiak, au doigt et à l'œil, la tête dans les étoiles.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, la torre, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais.
Ariane Matiak, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Alors la tête dans les étoiles, je ne mens pas parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous venez en France, vous revenez parce que vous habitez à Amsterdam.
Oui.
Vous achetez un magazine.
Le ciel, c'est ça? Oui. Tout à fait.
Pourquoi? Parce qu'en hollandais, c'est un peu plus compliqué?
C'est un peu plus compliqué, j'ai pas encore pris le temps de m'abonner.
Bon, vous avez encore un télescope?
J'ai réalisé mon rêve l'année dernière et je me suis acheté un bon gros télescope pour observer le ciel étoilé et c'est un vrai bonheur.
Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans le fait d'observer les étoiles?
Oh, je pense que ça me permet de prendre énormément de recul sur la vie, les choses. S'il y a toute une part de rêve, moi j'ai toujours eu la tête dans les étoiles et puis ça force l'imaginaire. On a besoin de toutes ces choses-là dans notre métier pour se nourrir soi-même et nourrir les autres.
Et à l'époque, quand vous étiez petite, l'orchestre vous faisait rêver?
Oui, l'orchestre me faisait rêver, surtout sa couleur. Le son de l'orchestre, c'est quelque chose qui m'a toujours émue. Je me rappelle quand mon père m'emmenait à l'opéra, mes parents sont chanteurs. J'étais toute petite et ce qui me fascinait, ce qui m'accrochait, c'était la musique qu'on entendait dans la fosse juste avant l'accord. Vous savez, quand les musiciens commencent à chauffer leurs instruments et à faire des mélodies qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Mais finalement, ce son-là, ce premier son, ce grouillement, on sait que dans quelques minutes, ça va faire quelque chose d'harmonieux. Et ça appelle en fait la conscience et la concentration. Et ce moment-là, c'est ma petite Madeleine à moi, en fait. Et quand je dois diriger maintenant à l'opéra, et que j'entends ces quelques minutes avant l'accord,
ça
j'ai tous les sens en éveil. Hmm. Oui, et j'ai envie d'y aller.
Vous
j'ai
êtes superstitieuse ou pas?
Pas vraiment, sauf récemment, j'ai dû faire diriger la première du ballet Casse-Noisette un vendredi 13. Et là, j'avoue que j'y ai pensé.
Surtout Casse-Noisette, oui, d'accord. Et non, je vous dis ça parce que vous n'arrivez pas à lire l'avenir dans les étoiles ou dans le marc de café, non?
Non, pas du tout. Par contre, quand on regarde les étoiles, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur l'avenir, en effet.
Et quand on regarde les musiciens dans l'orchestre, on s'interroge aussi? On essaie de sentir qui ils sont?
Ah, bien sûr, oui, dès la première minute. Parce que déjà, on est curieux de l'autre, parce qu'on aime l'autre. fondamentalement, quand on fait ce métier. Oui, on s'y intéresse et en plus, on a le devoir de le faire, surtout quand on dirige un orchestre pour la première fois, qu'on ne connaît pas les musiciens en face de nous. C'est très important de voir tout de suite qui a quel rôle, qui joue comment, qui influence qui, pour pouvoir créer une harmonie psychologique, en fait, entre tous.
Alors, harmonie psychologique, c'est un peu ce qu'on trouve sur la pochette de l'album qu'on va entendre là tout de
ah
suite.
Oui, tiens, très bien.
Et puis, vous me disiez, oh, mais c'est vrai qu'en préparant le parti d'en jouer, cette playlist, je me demandais si on avait le droit de passer ça sur France Musique. Et bien, la réponse, c'est oui.
Might have been red on a planet Mars, 'cause I don't have foresight to see if we'll still be together in the 21st, in the 21st century. Never so wrong that that was quite that size. 'Cause I don't have the energy to be cat and mouse for the champions of destiny.
Mais oui, les chœurs à la Queen, à la Bohemian Rhapsody, mais en fait, c'est Elton John, absolument génial, cette musique d'Ender. Alors, pilote du futur,
oui.
Ariane Mathiac est avec nous dans le parti d'en jouer, c'est le vôtre. Vous êtes chef d'orchestre, si vous nous rejoignez sur France Musique. 1975, et Elton John qui est un capitaine d'un vaisseau spatial, qui fait référence à la BD d'Ender.
C'est ça, d'Ender, c'est le capitaine,
c'est le capitaine
du vaisseau spatial. Oui, oui, c'est complètement. Enfin, sa chanson est complètement excentrique, un peu comme son personnage. J'adore. Et surtout, c'est une chanson un peu à la gloire du méchant de la BD. Voilà, je trouve que cette musique, elle est formidable. Déjà parce qu'elle allie le piano avec des sonorités nouvelles. Elton John avait une voix complètement démente au début. Et puis, j'adore l'univers de ces chansons, en fait, qui nous ramènent toujours à des choses complètement extravagantes, tout en gardant les pieds sur terre, ne serait-ce parce que la base de sa musique, c'est le piano classique. Elton John a été premier prix de la Royal Academy à Londres de piano. Donc,
vous aussi, vous gardez les pieds sur terre. Puis la base, c'est aussi le piano. On va en parler un petit peu plus tard. On se dit quand même, je ne vais pas filer la métaphore un peu facile et tout, mais allez, je me lance. maître de l'espace, c'est pas ça la bonne définition de chef d'orchestre ?
Maître de l'espace.
L'espace sonore.
Oui, et en même temps, c'est un rapprochement, je trouve, de diriger. Déjà, c'est plutôt se mettre en contact les uns avec les autres. Mettre de l'espace sonore, oui, créer peut-être un espace sonore, mais par un rapprochement de bonne volonté.
Monsieur Réventura, on vous appelle au téléphone.
On vous appelle au téléphone.
Merci. C'est par là, monsieur Ventura, là au fond. Oui, au fond et à droite. Il est parti. Le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène. Il connaît tout par cœur Stravinsky, Bach et Beethoven. Il dirige l'orchestre avec infiniment de chic. Pourtant ce n'est pas tout, voilà le hic. Notre chef n'aime pas la musique. Tarara, 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 tarara. Ni le moderne, ni le classique. Tarara, 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 tarara. Quand il était bébé, on l'en a dégoûté. Car on le forçait à faire des gammes d'oscilla sol pendant des heures, sans arrêt malgré ses pleurs. Ce fut le commencement du drame. C'est pourquoi il hait la musique.
Florine Mathiac.
Je suis pliée
de rire.
Ça vous
fait rigoler. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, finalement, comme dans toute petite flèche d'humour, il y a toujours une part de vérité, hein, bien sûr. Bon, quand le... Quand le chat s'en va, les souris dansent, il y a un peu ça quand même à l'orchestre. Il y a l'apprentissage. Puis ce que vous disiez, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez décidé aussi d'être chef d'orchestre, pour la musique bien sûr, mais surtout pour le fait d'être avec les musiciens.
Oui, c'est vrai.
De partager quelque chose, mais de ce point de vue-là, qui est quand même un positionnement particulier. Parce que vous pouviez tout à fait, en tant que pianiste, le partager en musique de chambre, non ?
Oui, mais on n'était pas assez nombreux en musique de chambre. Et mon piano ne me permettait pas de jouer au sein d'un orchestre régulièrement, on va dire, parce que le répertoire ne se prête pas à ça. J'ai essayé de me mettre au violon, c'était déjà un petit peu tard. J'avais vraiment, vraiment envie d'intégrer un orchestre pour le répertoire, pour l'esprit de groupe, en effet, comme on disait. C'était impossible. Et j'ai d'un seul coup compris que ma seule chance, c'était de prendre la baguette, qui n'était pas encore
dès
trop tard.
Dès 14 ans, comme je l'ai dit pour l'auditeur, vous avez commencé la direction d'orchestre à 14 ans.
Voilà, comme le violon. Et pour le violon, c'était trop tard, c'était fini.
Oui, mais à 14 ans, vous acceptez dans la classe de direction ? Vous n'étiez pas la plus jeune ?
Pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai
ah oui,
dû
ça, c'est les aléas du conservatoire.
Harceler le prof de direction d'orchestre pendant un an, qui finalement m'a acceptée et qui est devenu un ami d'ailleurs, que je remercie du fond du cœur, Ferdinand Corr, parce qu'il m'a vraiment donné la chance de m'y mettre très tôt et de travailler et de développer ma passion. De ne pas faire attendre cette passion.
C'est quand même
trop
un paradoxe
longtemps.
Parce que c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'enfants, il y a toujours cette mimésis aussi des enfants très tôt qui ont un réflexe de diriger la musique quand ils l'écoutent ou de bouger les bras.
Oui, c'est vrai.
Je dis que c'est peut-être l'activité la plus innée.
Oui, parce que ça fait en effet partie de nous, c'est un moyen d'expression simple. Je le vois aussi avec mes enfants, c'est très drôle. Et puis aussi quand j'ai dirigé des concerts éducatifs, quand j'étais en poste à l'orchestre de Montpellier, j'avais des enfants, 5000 enfants qui venaient par concert pour regarder le concert du Catif. Et je me rendais compte que derrière moi, les enfants, particulièrement les petites filles, d'ailleurs ça c'était très touchant, se mettaient à diriger et à danser sur la musique quand elles me voyaient faire. Mmh. Oui, donc c'est vraiment quelque chose d'inné. Et quand on sent la musique, je pense qu'on a envie aussi de la danser, mais en tout cas de la peut-être de la transmettre
et de l'exprimer tout simplement avec
le
corps.
Oui, voilà.
Alors on parlait justement de votre première formation, mm-hmm. qui était au départ le piano.
Oui.
Et cet extrait que vous avez choisi, Arthur Rubinstein.
Thank you.
Et oui, il y a l'ombre, bien sûr, de Clara Schumann, l'intermezzo numéro 2, opus 118, en la majeure, de Johannes Brahms, avec sous les doigts d'Arthur Rubinstein. Et nous sommes avec vous, Ariane Matiak, dans le Parti d'Anjouet. Vous êtes chef d'orchestre. Alors, vous avez fait du piano, bien sûr. Vous avez commencé la direction d'orchestre à 14 ans, ce qui est assez tôt. Et puis, vous m'avez dit quand même, ce qui ressort quand même, c'est que vous n'aimez pas la solitude. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'éprouvez pas parfois de très grands moments de solitude face à un orchestre ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut arriver. C'est triste d'ailleurs. Mais oui, ça peut arriver. On ne peut pas forcément adhérer tout le temps. Et par moment, ça m'est arrivé, en effet, d'arriver à la tête d'un orchestre et de ne pas savoir par quel bout le prendre. Oui. Alors ça, c'est quand même assez lourd quand on a assumé toute une semaine de répétition et un concert. Donc bon. On est pro, on le fait. Mmh. Mais je trouve ces moments tristes parce que voilà, le but de nos vies, hein, à moi comme aux musiciens, c'est de se faire plaisir en faisant de la musique.
Et on demande quand même beaucoup à un chef d'orchestre, comme à des musiciens d'orchestre, d'être pro. Ça, c'est quand même une notion qui est intéressante, sachant qu'on l'équilibre toujours avec une posture qui est quand même la tête dans les étoiles. Parce que si on fait ça, c'est pour produire du rêve.
C'est
pour
ça.
En tout cas le réaliser.
Et je pense qu'à notre place de chef, il est nécessaire, obligatoire, de nourrir les musiciens, de leur apporter un monde imaginaire, de les emmener quelque part. Imaginez un orchestre qui joue. Je viens de faire de diriger 14 ballets Casse-Noisette cet hiver à l'Opéra de Stockholm. Et cet orchestre à l'Opéra de Stockholm a l'habitude de jouer ce ballet tous les ans. Il faut les nourrir, il faut leur donner, se renouveler, donner des choses différentes à chaque spectacle.
Et ça, c'est facile de faire bouger les traditions, les coutumes, les habitudes d'un orchestre ou...
Je pense qu'il y a des orchestres qui en ont véritablement besoin, qui en sont friands, d'autres qui ont plus de mal à se laisser bouger, mais... je pense que de toute façon, l'ennui est mortel pour la musique. Donc, à partir du moment où on donne la possibilité de s'évader, de se nourrir d'autre chose, d'aller peut-être dans une autre direction, dans une interprétation qu'on a visitée, revisitée, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, la majeure partie des musiciens adhèrent et sont heureux, même au contraire, de pouvoir eux-mêmes se nourrir d'autres choses et donner une autre image aussi de l'orchestre à leur public.
Voilà, c'est un sacré concerto pour orchestre de Bartók Pierre Boulez, l'Orchestre Symphonique de Chicago. Ariane Matiak, ça c'est quelque chose que vous avez dirigé ou pas ?
Pas encore, en répétition. J'ai eu la chance d'assister Manuel Krivine sur cette œuvre à l'Orchestre de Montpellier. Un souvenir extraordinaire, j'ai appris énormément et puis j'ai découvert un chef d'orchestre fascinant. Ça, c'était un choc, le concerto de Bartók, le premier choc musical, je pense, qui m'a donné envie de me coltiner à l'orchestre. Oui.
Alors, tout à l'heure, on écoutait Arthur Rubinstein, et puis c'est vrai qu'en commentant cette beauté absolue de l'œuvre, on se disait qu'il y a quand même des petits pains qui sont gardés.
Oui.
Ça, on se dit quand même que la théorie de la fausse note, on peut presque se dire que c'est le révélateur, le baromètre de comment la société vit son rapport à la perfection,
oui,
à l'erreur, et du coup, l'erreur est humaine, mais quand même à l'humanité et à l'inhumanité des musiciens. On se dit quand même, on a presque l'impression qu'à l'orchestre, on n'a pas du tout le droit à l'erreur.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, spécialement dans la musique classique, où on est conditionné dès le plus jeune âge à jouer parfaitement les partitions, sans faire une seule fausse note, une seule imprécision. Souvent, je me rends compte que je suis devant un orchestre assez timide, bloqué, quand on a des œuvres difficiles à exécuter, dans la terreur de la fausse note, en fait. Je l'ai souvent vu. Et pour moi, ça, c'est une priorité de les décomplexer et de donner la chance, justement, de faire des fausses notes, mais de prendre des risques. Parce que ce qui compte avant tout, c'est une interprétation qui a du souffle, de l'élan, c'est de raconter quelque chose. Je pense que le public pardonnera toujours une fausse note. Et puis souvent, à partir du moment où les musiciens sont décomplexés, on se rend compte qu'ils peuvent jouer fantastiquement et donner vraiment un souffle musical sans faire la moindre erreur. Parce que c'est très psychologique tout ça. Finalement.
Mais c'est la même chose pour le chef d'orchestre aussi ?
Ben nous, et ça m'arrange en fait. Hein. C'est vrai qu'on ne fait pas vraiment de fausses notes dans nos métiers. On peut se planter.
Mais la notion de faux gestes, parce que c'est vrai que du coup, les geeks de la direction d'orchestre, mm-hmm, critiquent Petit Marquis, des salles de concert, etc.
Mm-hmm.
Je veux dire, on entend souvent, oh, il a battu à 2 alors qu'il fallait battre à 4, enfin des choses comme ça.
Oui, moi je trouve ça complètement ridicule parce que de toute façon, d'une interprétation sur l'autre, on peut tout trouver et tout peut être justifiable finalement. Et puis je vois ça quand je fais des concerts rapprochés avec des œuvres identiques. Par moment, moi-même, je vais changer ma battue parce qu'on s'adapte aussi. On s'adapte aux musiciens qui sont en face, on s'adapte à une acoustique. Il n'y a rien de figé. En fait,
au contexte, à vos émotions, à votre état de transport ou de transcendance
aussi.
Oui,
et même de fatigue, j'allais dire. Parce que là, récemment, j'ai dû diriger 2 spectacles avec 42 fièvres. Les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière.
C'était la fièvre.
C'était en plus samedi soir, très drôle.
Donc, ce n'était pas un vendredi 13.
Non.
Vendredi 13, 42 fièvres.
Ah, on a tout eu pour ce
concerto. Et concerto pour Orchestre de Bartok. Alors là, quel est votre pire souvenir ?
Ah, mon pire souvenir, je pense, je vais pas citer le nom de l'orchestre, mais c'est en arrivant pour la première fois à la tête d'un orchestre germanique.
D'accord.
J'étais enceinte de mon deuxième enfant et ça se voyait largement. Il y a un musicien qui l'a très mal pris. Ça a été très très compliqué en fait, ça. De diriger. En plus, c'était une longue série. Je devais rester un mois sur place. C'était très compliqué de diriger enceinte et que certaines personnes de l'orchestre, en plus, voient mon ventre s'arrondir. C'est très mal passé.
Et pourquoi ?
Oui, je pense que c'est compliqué encore de nos jours pour certaines personnes d'accepter qu'une femme puisse les commander.
Nu pod pod orille papà sulla rella. Da mille piglia di le vase di cerille.
Ah, on est bien dans le parti d'Anjou, à vous, Kella de Tosti, le grand Roberto Alagna. Ariane Mattia qui est avec nous dans le parti d'Anjou, vous êtes chef d'orchestre, je le dis pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et alors, en termes d'émotion, parce que finalement, il n'y a que ça qui nous intéresse dans le parti d'Anjou, c'est arriver à mettre des mots sur les émotions. Là, est-ce que vous arriveriez à mettre des mots sur cette émotion si particulière que vous avez ressentie en dirigeant, enfin en dirigeant, ou en se laissant diriger?
C'est ça.
Par Roberto Alagna.
C'est très compliqué de le mettre en mots. Je dirais que ça a été irrésistible. Voilà, cette première rencontre a été une rencontre musicale irrésistible. On m'a appelée d'urgence pour diriger une répétition du Cyrano d'Alfano à l'Opéra de Montpellier, donc où j'étais chef assistante pendant quelques années. Et voilà, et le grand Roberto était là et je devais le diriger. Et je suis allée d'urgence à l'opéra avec une boule au ventre, le stress.
D'urgence à l'hôpital. Donc boule de stress, vous arrivez.
Ah mais complètement, en essayant de me raisonner, en me disant bon ça va, ce n'est que Roberto Alagna.
Ce n'est qu'un chanteur.
Je suis arrivée, il était là sur scène, il m'a accueillie déjà d'une manière... avec un sourire vraiment très, très généreux. Et là, j'ai levé la baguette et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, il a dirigé lui-même avec sa voix et que moi, je me suis juste laissée embarquer dans son monde, dans son univers, dans sa musique. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête et généreux. C'est pour ça aussi que ça marche et que tout le monde l'adore. Et puis, il a évidemment un talent fou. Hein.
Et ce sentiment-là, c'était émotion, vous arrivez à la retrouver avec un orchestre sans chanteur?
C'est différent. Ce que j'ai vécu avec Roberto, c'était quelque chose d'unique. Je m'en rappellerai toute ma vie. Maintenant, oui, il y a plein de choses, plein d'émotions extrêmes qu'on arrive à avoir, évidemment, à l'orchestre. Il m'arrive d'en avoir des frissons. J'avoue que j'ai beaucoup de chance d'être à cette place et aussi de me nourrir des sons que les autres... me renvoie.
Et oui, et ça dès votre plus tendre enfance, parce que vous nous le disiez, vos parents sont chanteurs d'opéra.
Mm-hmm.
Ils ont monté avec Mireille Laroche la Péniche Opéra.
C'est vrai, oui. Ils ont
et puis des petites phrases comme ça qui sont très belles. Quand votre papa a pris sa retraite, il disait, vous savez, tu sais, ce qui va le plus me manquer, c'est l'odeur de la colle.
Oui, l'odeur de la colle sur scène avant le spectacle. Et maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Parce que finalement, j'ai la même chose, mais dans la fosse, avec les sonorités des instruments avant l'accord. Et je me rends compte que c'était sa manière à lui aussi de profondément se concentrer, de se mettre dans son personnage avant le spectacle. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement... professionnel et qui a une passion pour son métier du début à la fin, parce que maintenant il a pris sa retraite absolument débordante et d'ailleurs il m'a filé le virus hein. Et ma mère aussi d'une autre manière. Alors ma mère d'une manière très différente, elle a vraiment un grain de folie absolument charmant et dévastateur en même temps.
Vous n'avez pas hérité de
parce
ça aussi
parce que quand elle passait quelque part, on se rappelait toujours d'elle. Et peut-être j'ai hérité un petit peu des deux, j'en sais rien. Peut-être c'est ça qui m'aide d'ailleurs à garder les pieds sur terre et en même temps à insuffler un peu un grain de folie à l'orchestre, parce qu'on en a toujours besoin.
À deinen Sternen die Ruhe
Qu'est-ce que c'est beau, ce duo d'amour, ouais. Du Chevalier à la Rose de Strauss, Erich Kleiber, les Wiener Philharmoniker, et puis Senar Jurinacz, Hilde Gueden. Ça, c'est quand même un sacré truc. Présentation de la Rose.
Oui.
Et vous me disiez, Ariane Matiak, que bon, il y a plein d'idées qui sont très inspirantes là-dedans. Il y a le fait d'offrir un gage de son amour, tout simplement, et puis le fait de percevoir aussi, c'est ce que dit le texte, des parfums célestes, des saveurs qui viennent du ciel, sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à mettre de nom, mais qu'on arrive à ressentir.
Oui, et puis qu'on arrive à mettre en musique une couleur tout à fait particulière, la couleur argent, qui est comme la couleur de cette rose qui est présentée à Sophie, qui est là pendant ce duo d'amour omniprésente. Enfin, moi, j'adore ce duo. Pour moi, voilà, ça, c'est l'amour, l'amour en musique, le coup de foudre idéal. Une phrase, la première phrase de Sophie, pour moi, qui est peut-être une des plus belles phrases de l'histoire de l'opéra. C'est un moment extraordinaire. Et puis cet opéra lui-même, hein, c'est un de mes opéras préférés.
Alors avant d'aller à Montpellier, Ariane Matiak, vous êtes passée par Vienne,
justement. Oui, justement.
Ça tombe bien.
Oui.
Et vous avez, alors c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect chanteuse. Vous atterrissez dans le chœur Arnold Schoenberg, oui. De Nicolaus Harnoncourt.
Pas de Nicolaus Harnoncourt, de Wiener, mais Harnoncourt le dirigeait régulièrement. Oui.
Très souvent. Mm-hmm. Et vous chantez là pendant 2-3 ans, ça vous permet de payer votre loyer tout simplement.
Oui, c'est ça.
Mais de vivre de l'intérieur une expérience assez unique.
C'est ça. C'est-à-dire que je suis arrivée un peu là par hasard, j'avais vraiment besoin de fric, comme la plupart des étudiants. Et on m'a dit, tiens, pourquoi tu ne te présenterais pas à l'audition pour entrer au chœur à Arnold Schoenberg ? Tu as une petite voix, très bien. En effet, on m'a tout de suite engagée et là, ça a été fabuleux parce que j'ai vécu des expériences fortes avec les plus grands chefs et orchestres actuels et presque sans le savoir en fait. La première fois qu'Harnoncourt est venu nous diriger, j'avais quand même prévu ma partition, mon score d'orchestre parce que je voulais en noter le plus possible, mais j'étais tellement fascinée par l'arrivée de ce grand maestro, que quand il a fallu chanter, je n'ai pas ouvert la bouche.
C'est pas mal, ça.
Complètement fascinée.
Super le job d'étudiant.
C'était top. Voilà. Donc, j'ai des souvenirs fabuleux avec Harnoncourt, avec le Philharmonique de Vienne, notamment des voyages, des tournées qu'on faisait avec eux. C'est pas mal quand on a un avion qui est réservé pour le Philhar de Vienne et le chœur Arnold Schoenberg. Ouais.
Et vous observiez donc Nicolaus Harnoncourt.
J'observais, je notais, je ressentais, je m'imprégnais. Et puis après mes études, j'ai continué à m'inspirer de lui, lire ses bouquins, son dialogue et son discours musical. Ça, ce sont mes bibles, en fait, mes livres de chevet. C'est un grand maestro. Bon, évidemment, on sait tout ce qu'il a fait pour le renouveau de la musique historique. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est libre, qui est complètement libre, un électron libre, et qui permet aussi dans ses bouquins de se décomplexer et de soi-même chercher un chemin pour trouver la beauté.
«
L'oratorio de Noël, le tout début de Jean-Sébastien Bach avec le chœur Arnold Schönberg, le Concentus Musicus Vini Nicolaus Harnoncourt, que vous côtoyez bien sûr depuis dans les chœurs de 2002 à peu près à 2005, Ariane Mathiac.
Oui, c'est ça.
Et puis alors, ce qui se passe, c'est que là, on revient sur vraiment des éléments de votre parcours. Vous arrivez à Montpellier, vous passez une audition pour être chef assistant.
C'est ça, oui.
Vous n'avez pas complètement fini votre cursus
pas du tout
à Vienne ?
Non. J'ai fait 3 ans à Vienne avec Leopold Hager et Yuji Uwaza. Des moments intenses où j'ai pu développer mes connaissances autour de la musique allemande et autrichienne, bon, ce qui est quand même la base de notre métier. Et puis travailler la technique avec Yuji Uwaza, qui est lui-même un collègue de Seiji Ozawa. Donc travailler la technique japonaise selon la méthode Saito, qui m'a permis de développer
plus
de clarté.
Pour les auditeurs, ça consiste en quoi
En fait, cette technique, elle est vraiment basée sur les arts martiaux. Donc c'est en fait apprendre à contrôler son corps, ses gestes, et avoir plus conscience en fait du geste que l'on va faire et qui va procurer une sensation, une émotion, un son particulier.
Ce qui veut dire que vous en avez fait des arts martiaux ?
Non, mais j'ai pratiqué la méthode Saito.
Vous me faites peur, attention. S'il y a une question qui ne vous plaît pas, baguette magique. Et alors donc, du coup, vous gagnez ce concours. Vous êtes chef assistante dès 2006, je crois.
Oui, c'est ça. Et c'est René Koering qui m'a donné ma chance à Montpellier. Ça a été une époque fabuleuse, avec un orchestre au top, moderne, des musiciens d'une gentillesse et d'un talent incroyable, d'une générosité formidable. J'étais d'ailleurs très triste de voir tous les problèmes qu'ils ont subis les dernières années depuis le changement de direction. Et ils m'ont tous donné ma chance, en fait. Et je me rappelle d'un concert de James Conlon, en fait, la 7e de Shostakovich. James Conlon a annulé au dernier moment pour des raisons diverses. On ne trouvait pas de remplaçant. René Koering a pris le risque de me demander de diriger ce concert. Ça a été une chance extraordinaire. Puis ça a été un moment de communion avec les musiciens incroyable. C'était en tout début de mon contrat aussi, donc ça nous a rapprochés énormément. Et je crois qu'il y a une véritable histoire qui s'est liée entre nous. Je suis restée 3 ans, j'ai eu beaucoup de mal à partir, beaucoup de mal à abandonner ces collègues magnifiques que j'ai jamais pu remplacer en fait.
Mais ça se passe toujours un peu comme ça, j'ai l'impression, parce qu'on en parlait en préparant l'émission, en disant c'est vrai que la théorie de la fausse note tout à l'heure, de l'erreur, mais là on pourrait presque se dire que c'est la théorie du plongeon, c'est-à-dire que en Allemagne aussi, il y a toujours cette idée que les premiers pas, les débuts d'un chef d'orchestre se font toujours dans ce timing extrêmement serré. Et que c'est aussi sur ça qu'on va jauger les capacités, les compétences d'un chef.
Oui, parce qu'il faut avoir des nerfs, il faut avoir les nerfs solides pour faire ce métier, c'est très clair. Bon, il faut dire qu'à Vienne, j'étais à la bonne école parce qu'ils étaient stricts, mais je ne regrette rien parce que j'ai pu tout de suite intégrer l'orchestre de Montpellier. Je pense que si j'ai gagné ce concours, c'est que j'avais des nerfs aussi. Ils avaient développé ça en moi, particulièrement Yuji Uwaza et sa méthode Saito.
Alors, des nerfs, et puis question des origines, Mathiac, ce serait pas breton ?
Non, pas du tout.
Mince alors, ça
c'est
tombe
ukrainien. Mon grand-père était ukrainien.
Mais c'est pas si loin.
Je ne sais pas comment faire la transition, mais c'est vrai
pas
que la Bretagne...
La Bretagne est très importante pour vous.
C'est ma terre d'adoption.
Mes organes des kreiser mourter leiremes ont i djuen du hondameus ben en la grise qui t'a le nour aglane ole en vis mes organes Ibro Arevo Mazadewe Elida Deu Marat Lud mare, more blut, me zadeu e li dadeu, stlige ruide. Me mame vi e la bua gieni ble, geti e nui arentalie. Disque de meuse bien ictra, Médaille à tête, à valeu. Maman me vit, la bourra, d'unit barra.
Ah, bah oui. On se rapproche des origines, de vos origines, Ariane Bactiac, avec Didier Skiban, Yann Vanche-Kemener, Mezzo Ganet. Alors, bon, ces origines bretonnes, on m'avait craigné au départ, mais bretonnes. Ça veut aussi dire que quand on revient au début de l'émission, quand vous regardez dans le ciel, il y a cette idée peut-être de se réoxygéner, de s'échapper de quelque chose. La réalité, c'est quelque part une idiotie parce qu'il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'écho. La réalité, c'est un produit brut. Et puis, les origines, comme le ciel, c'est quelque chose un peu d'immatériel.
Oui, puis en même temps, il y a un grand besoin de s'enraciner quelque part. C'est-à-dire que c'est toujours plus confortable de regarder loin, de se perdre dans l'observation de l'univers, avec les pieds bien ancrés sur terre pour pas se perdre. Alors, moi, mon point d'ancrage, il est en Bretagne, définitivement, depuis le plus jeune âge. Et c'est la terre où j'aime venir me ressourcer. Et d'ailleurs, je regrette en ce moment d'en être aussi éloignée. Voilà, cette chanson, c'est un peu mon état d'esprit quand je suis un petit peu trop longtemps, trop loin d'elle, la Bretagne.
Il faut construire une maison dans les endroits qu'on aime.
Oui, c'est ça. Un jour, je le ferai. Un jour, on y arrivera. Et j'aurai ma petite maison en Bretagne, oui.
Alors, Strauss rime pour vous avec « Bonne nouvelle ». Puisque vous apprenez que vous êtes enceinte de votre deuxième fils.
Je me demandais où vous vouliez en venir.
Ah, mais je sais beaucoup de choses, mais je le tiens de vous.
C'est vrai qu'à l'occasion de la direction de mon premier, Richard Strauss, c'était très sympa. Richard.
Et donc, en Scandinavie, pour faire simple, en gros, vous dirigez en Norvège en 2009. Et c'est vrai que l'expérience des fjords, hein, mais on pourrait filer la métaphore, hein, c'est une expérience particulière avec l'orchestre, je crois, de Stavanger.
C'est ça, oui, que je dirige régulièrement. Il faut dire que la Scandinavie, bah, c'est une terre qui m'accueille régulièrement pour diriger. On est dans une autre société où les mentalités ont peut-être évolué plus vite et où on n'hésite pas à confier à une femme des directions d'œuvres lourdes, comme on confie aussi à des femmes la direction de grosses entreprises, de grosses boîtes en fait. C'est une société différente, qui est basée sur le fait de ne jamais exclure les minorités. J'étais très émue récemment à Stockholm parce qu'on m'a invitée à la soirée de Noël de l'Orchestre de l'Opéra. Et j'ai pu rencontrer tous les retraités de l'Opéra de Stockholm qui continuent à faire partie de la maison. Ce que j'aime là-bas, c'est qu'en effet, les femmes ne sont pas exclues quand elles ont des enfants. Les hommes restent à la maison à part égale sans aucun problème. Et même, j'apprécie beaucoup ça. J'ai parlé récemment avec un tubiste qui me disait sa joie d'être resté à la maison pendant un an pour permettre à sa femme de continuer à jouer de la trompette à l'orchestre de l'opéra et qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Il en parlait très ému, les larmes aux yeux. Ce sont des choses que j'ai rarement, peut-être même, non, jamais entendu en France encore. Et je trouve formidable qu'on puisse vivre dans une société où voilà, personne n'est exclu, tout le monde a sa chance, tout le monde, y compris les femmes, peuvent avoir une éducation, se développer dans le but d'aller loin, et elles ne seront pas freinées quand les enfants vont arriver, et elles n'y pensent même pas en fait. Ça fait une société où les femmes ont du caractère, et où les hommes sont très fiers d'avoir des femmes qui ont du caractère.
Moi je lève la baguette, vous levez l'archer. Alors une chose, même prenez l'habitude, même aux répétitions, de ne pas avoir une tenue négligée, ni ça. D'accord. C'est une habitude à prendre.
Charles Munch en 1967, oui, Ariane Matiak.
Au début de l'Orchestre de Paris.
Au tout début de l'Orchestre de Paris, apprenez à vous tenir droit.
Oui.
Pas complètement avachi, à négliger, parce qu'il y a une vidéo, bien sûr. C'est pas mettez une cravate, c'est tenez-vous bien.
Oui, par respect pour la musique et le compositeur. Et c'est vrai que c'est plus engageant d'avoir un orchestre qui se tient bien. Oui.
Le rapport à l'autorité a bien sûr changé. On imagine ?
Oui, c'est différent maintenant. Évidemment, c'est une autre époque, mais je pense qu'on est là, on est garant de ça encore. Peut-être qu'il faut le demander d'une autre manière, sans taper avec sa baguette sur le pupitre, mais c'est important de susciter le respect des musiciens. Pas pour notre propre personne, parce que peut-être à l'époque, il y avait un petit peu
mais
de ça.
Mais pour le texte sacré.
Exactement. Mmh.
Alors, on a ouvert ce parti d'en jouer le vôtre, Ariane Matiak, avec La tête dans les étoiles. Bah, finalement, on va y retourner avec Le pigeon voyageur, Die Taubenpost, de Schubert, avec, pour le coup, votre mari qui est chanteur.
Oui.
La voix vous environne. Et
la voix, ouais, ben voilà, ça continue. Ma foi, je suis abonnée à ça. Non, voici, c'est l'homme que j'aime, avec lequel je partage ma vie, et les soucis, et les gardes d'enfants, et les voyages, et cette vie passionnante, voilà, qui nous unit.
À Amsterdam.
À Amsterdam, oui, pour le moment. Évidemment, c'est plus pratique quand on travaille dans le Nord. Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais j'avoue que c'est beaucoup plus pratique pour moi, tant que je travaille en Scandinavie, en Allemagne, d'être basée là-bas. Et je ne pouvais pas imaginer cette émission sans passer quelques mesures de la voix de mon mari.
Un grand merci à vous, Ariane Matiak. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten. Zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und Schritt, gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt die ihren mit. Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr, die Träne selbst geb ich ihr. Oh, sie verträgt sie sicher nicht. Eifrig dient sie mir, gar eifrig dient sie mir. Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum, ihr gilt das alles gleich. Wenn sie nur wandern kann, dann ist sie überreich. Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt, der Weg ist stets ihr neu. Sie braucht nicht Locken, braucht nicht Lohn, die Taub ist zu mir treu. Die Taub ist zu mir treu, drum heg ich sie auch so treu an der Brust, versichert des schönsten Gewinns. Sie heißt die Sehnsucht, kennt ihr sie, kennt ihr sie? Des schönsten Gewinns.
Dit à Ubenpost, le pigeon voyageur, Schubert, Thomas Oliemans, votre mari, Ariane Matiak, un très très grand merci à vous. Éric Lancien a réalisé cette émission, Éric Boisset était à la prise de son et au mixage, et il y avait bien sûr Jean-René Bonisson à la préparation, un grand merci à eux trois. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique, bientôt 22h, l'heure de Comme si vous y étiez, Jérémy Rousseau, bonsoir.